Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous venons de célébrer 4 baptêmes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est votre première fois dans une église évangélique et vous vous dites que ce qui se passe ici ou ce qui s'est passé est plutôt étrange. Eh bien, sachez que votre réaction est normale, si c'est votre réaction. Alors, j'ai déjà expliqué le sens du baptême, je ne vais pas le refaire. Mais ce que j'aimerais faire dans ce bref message, c'est de vous expliquer la nature de cette nouvelle vie en Christ et surtout comment on y parvient. Comment on y parvient. Et alors, j'aimerais m'inspirer d'une histoire dans la Bible, celle d'un homme, un aveugle, qui s'appelle Bartimée. Son récit est important parce qu'il se trouve dans 3 des 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et mon objectif ici, en décrivant la guérison de cet homme, c'est de faire un parallèle. L'aveugle était aveugle et il ne pouvait rien faire de lui-même pour se guérir. De même, la Bible dit que les hommes sont spirituellement aveugles à cause du mal qui existe en eux, ce qu'on appelle le péché, car le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent. Donc l'homme, nous dit la Bible, est spirituellement aveugle et il ne peut rien faire de lui-même pour se guérir. Seul Dieu peut nous guérir comme il a guéri l'aveugle. Et je pense que son histoire va nous montrer ce que lui a fait pour appeler Jésus. Et je pense que le parallèle est flagrant sur ce que nous devons faire pour croire en Christ, pour être sauvés. Alors bien sûr, nous allons regarder la guérison d'un aveugle. La question se pose, juste en dire un mot. Est-ce que la guérison physique est encore pour aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un miraculeusement, physiquement, comme il l'a fait pour cet homme? Eh bien, premièrement, nous pouvons dire que dans Jacques 5, il nous est dit que nous pouvons prier les uns pour les autres pour que Dieu nous guérisse. Donc oui, Dieu peut guérir quelqu'un instantanément lorsqu'on prie. C'est à lui, bien sûr, de décider, mais c'est tout à fait faisable. Deuxièmement, nous pensons que le don des guérisons, c'est-à-dire de pouvoir guérir quelqu'un sans prier pour lui, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Nous pensons que les dons miraculeux avaient vraiment leur but dans Marc 16, 20, de travailler avec eux et confirmer la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Une fois que le canon était clos, il semble y avoir une diminution de ce type de miracle. Et troisièmement, et ça c'est important de dire, nous allons voir la guérison d'un aveugle. Sachez que tous les aveugles à Jéricho n'ont pas été guéris ce jour-là. Donc on ne peut pas dire que la norme, c'est que Jésus guérisse tout le monde. Il guérit certains, mais pas tous. Ceci dit, j'aimerais vous lire ce récit incroyable, d'accord? Écoutez bien, Marc 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, donc c'est Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va. « Ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, parlons un petit peu du contexte. Jésus nous dit, le texte, passait à Jéricho. Alors, Jéricho, c'est une ville en Israël, une ville qui était connue pour plusieurs choses. Premièrement, c'était une très belle ville. En fait, on la considérait à l'époque un paradis terrestre parce qu'elle avait des milliers de palmiers et des grands jardins de roses et ces énormes sycomores qui alignaient les rues de la ville. Donc, c'était vraiment un endroit prisé. C'était une ville avec un très bon climat, surtout l'hiver. Si vous y allez maintenant, apparemment, le climat est correct, il est bon. Troisièmement, c'était une ville riche. Zachée, un autre personnage dans la Bible, lui travaillait pour les Romains en tant que percepteur d'impôts et vivait à Jéricho. Les Romains avaient un bureau d'impôts important à Jéricho parce que la ville était au centre d'un croisement important d'un système routier romain. C'était aussi une ville historiquement importante. Vous vous rappelez, dans Josué, l'histoire des murs de Jéricho qui se sont écroulés. Et cinquièmement, c'était une ville médicinale. Et ça, c'est important. Étonnamment, Jéricho était connu pour les nombreux aveugles qui y habitaient. En fait, il y avait beaucoup d'aveugles au Proche-Orient à l'époque, et surtout dans les villes. Pourquoi ? Parce qu'un aveugle, il faut se mettre vraiment dans la peau d'un aveugle quelques minutes, surtout à l'époque, il ne pouvait pas travailler. Rares étaient ceux qui avaient des familles qui pouvaient vraiment les soutenir financièrement. Et la plupart des aveugles étaient relégués à devoir mendier. Alors bien sûr, ils se plaçaient souvent dans les endroits stratégiques, et souvent dans les entrées ou dans les sorties de villes, aux portes des villes. Et là, il se mettait sur ce chemin stratégiquement et il faisait l'aumône. Et ce qui rendait Jéricho particulièrement attrayant pour les aveugles était qu'il y avait une plante spéciale qui poussait dans les environs de Jéricho, de laquelle une baume était fabriquée pour traiter la cécité. De ce fait, Jéricho avait plus d'aveugles que la moyenne, car ces aveugles venaient à Jéricho pensant que là, ils avaient une chance meilleure que d'autres endroits pour pouvoir être guéris. Et voilà exactement pourquoi cet homme Bartimée est à Jéricho. Et c'est ce qu'il est dit. Ils arrivèrent à Jéricho, verset 46, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, donc il sort de la ville, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Parlons juste brièvement de la cécité. C'était une chose commune à l'époque. Comme il est le cas, malheureusement encore aujourd'hui, souvent dans les pays sous-développés. On pouvait devenir aveugle pour plusieurs raisons, à cause d'accidents bien sûr, ou à cause de blessures de guerre, mais la plupart des aveugles le devenaient après leur naissance à cause d'infections de gonorrhée dans l'œil, contractées par leur mère lors de la grossesse. Beaucoup de mamans portaient cette bactérie dangereuse, bien qu'elles n'étaient pas infectées elles-mêmes. D'autres enfants devenaient aveugles par un trachome, c'est-à-dire une conjonctivite granuleuse, contagieuse, qui est endémique dans certains de ces pays chauds. Bien sûr, ils n'avaient pas de médicaments comme nous avons aujourd'hui, et donc il y avait beaucoup d'aveugles. Alors voilà brièvement le contexte. Et ce jour-là, cet aveugle qui mendiait là depuis quoi, des mois, des années, eh bien, son monde allait totalement basculer. Et nous allons maintenant regarder cette rencontre entre Jésus et ce Bartimée, cet aveugle. Et dans cette rencontre, j'aimerais soulever sept ingrédients de la foi qui devraient, je pense, caractériser toute personne qui veut être guérie spirituellement par Jésus-Christ. Donc je fais un parallèle, sa guérison physique avec notre guérison spirituelle. Et là, il y a sept ingrédients de la foi et j'espère que ça va vraiment éclaircir les choses pour vous si les choses ne sont pas claires. Un, premier ingrédient. Bartimée a entendu. Bartimée a entendu. Verset 47. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin et entendit ce que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit. Alors imaginez la routine de cet homme. Quelle était sa routine ? Tous les jours, à la porte. Et il savait quelque part que la possibilité d'être guéri était probablement nulle. Alors bien sûr, les bruits avaient couru comme quoi il y avait un homme dans le pays qui allait de village en village et qui guérissait les malades. Il avait certainement entendu parler de ces estropiés, de ces paralytiques, de ces lébreux qui avaient déjà été guéris à Capernaüm surtout. Jéricho était bien loin de Capernaüm. Pouvait-il vraiment imaginer être guéri un jour ? Mais un jour, il a entendu. Peut-être vous êtes ici cet après-midi, vous êtes comme Bartimée, vous êtes aveugle spirituellement, ces choses, ce n'est pas très clair pour vous, ce que vous voyez, ce que vous avez entendu. On vous parle de Jésus-Christ, on vous parle qu'il peut vraiment pardonner quelqu'un, qu'il peut effacer le péché de quelqu'un, qu'il peut accorder la vie éternelle à quelqu'un. Vous entendez. Et vous posez la question, mais attends, ok, pour quelqu'un d'autre, mais pour moi? Pour moi? Ben, l'aveugle s'est dit, mais c'est probablement pas pour moi que ça va arriver aujourd'hui. Eh bien, je suis en train de te dire que Jésus est en train de passer ici cet après-midi. Oh, pas physiquement, bien sûr, mais il est là. Il est là. Et il voit ta condition. Tu as entendu 4 témoignages cet après-midi? Tous ont affirmé la même chose. Qu'ils étaient aveugles spirituellement et paf, un jour ils ont vu, ils ont compris que Christ pouvait vraiment transformer leur vie. C'est ce qu'on a entendu. C'est intéressant que Romains 10 dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, premièrement, il faut entendre. 2. Bartimée a reconnu. Bartimée a reconnu. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Est-ce que tu captes ce qui se passe ici? C'est intéressant. Alors, cet aveugle, hein, il faut l'imaginer. Il était là tous les jours. C'était le même scénario tous les jours de sa vie. Il était habitué au son, au bruit qu'il entendait. Ses oreilles étaient très attentives. Et tout d'un coup, le bruit ce jour-là est différent. Un ronronnement grandissant de gens qui parlent et qui marchent. Oui, il y a une foule qui se rapproche de son endroit, qui vient de la ville. Il entend des enfants qui courent. Peut-être voit-il des poules qui cavalent et qui gloussent. Peut-être des chèvres qui bondissent et qui braillent excitées. Peut-être même des chiens qui aboient. On ne sait pas. Mais quelque chose d'inhabituel est en train d'arriver ce jour-là. Et alors, Luc 18, 36, passage parallèle, nous dit qu'entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. « Que se passe-t-il » dit-il. « Qu'est-ce que nous entendons ?» Et quelqu'un, une voix, il ne voit personne, une voix dit « C'est Jésus de Nazareth, il est ici et il va passer sur cette route devant toi aujourd'hui. » Comment vous réagissez? Vous êtes l'aveugle. Imaginez le flash d'émotion qui a lieu à cet instant dans le cœur de cet homme aveugle. Le nom prononcé « Jésus de Nazareth » est ici. Waouh. Celui dont il avait entendu parler, celui qui avait guéri tant de personnes, était là, allait passer devant lui. Et c'est intéressant, je trouve très intéressant ici. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est intéressant, c'est pas juste Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Ben pourquoi? Pourquoi cette précision? Ah, parce qu'il y avait beaucoup de Jésus à l'époque, c'était un nom assez commun. Mais Jésus de Nazareth, là, définissait ce Jésus comme celui de Nazareth que tout le monde connaissait, celui qui avait manifesté des pouvoirs. C'est intéressant, les démons parlaient de Jésus par ce nom et utilisaient ce nom. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» disent les démons dans Marc 1, 24. « Tu es venu pour nous perdre. » Les ennemis de Jésus ont aussi parlé de Jésus de Nazareth. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regardait et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pas n'importe quel Jésus. Même les anges ont appelé Jésus par ce nom. Dans Marc 16, 6, il leur dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. » Voyez le lion, on l'a mis. Voyez-vous, de nouveau, Jésus de Nazareth. C'est important parce qu'il y a des faux Jésus. Il y a des faux dieux. Il n'y en a qu'un, mort et ressuscité, qui peut vraiment nous guérir spirituellement. Deuxièmement, il appelle comme fils de David. C'est intéressant. Pourquoi fils de David? Hein, il dit ça au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Pourquoi? Parce que « Fils de David » était un titre messianique. Il fallait que le Messie vienne dans sa lignée du roi David. Ce qui était le cas pour Jésus. Alors, ce qui est intéressant, mes amis, c'est que Bartimée, un aveugle, était certain de deux choses. Sans jamais l'avoir vu, il savait que Jésus était Jésus de Nazareth et Jésus, fils de David. C'était celui qui avait fait les miracles et c'était le Messie promis. Et ça, c'est important, parce que les pharisiens considéraient Jésus un bâtard ou un démoniaque. Les penseurs prennent Jésus pour un philosophe. Non, cet aveugle a compris qui Jésus était vraiment, celui qui pouvait vraiment transformer sa vie. Alors, je te pose la question. Dans le fin fond de ton cœur, peut-être tu n'as jamais encore rencontré Jésus. Tu as entendu parler de lui quelque part dans ton cœur. Est-ce que tu te dis, tiens, peut-être que c'est vrai. Peut-être que ce Jésus dont j'ai entendu parler aujourd'hui est vraiment celui qui peut transformer une vie, qui peut guérir quelqu'un. Peut-être est-il vraiment le Messie et pas un autre. Est-ce lui qui peut réellement pardonner le péché d'un homme ou d'une femme? Pourquoi? Parce qu'il est mort et ressuscité, vainquant la mort, vainquant le péché. Eh bien, Bartimée, oui. Troisième ingrédient de sa foi. Bartimée a crié. Regardez ce qui se passe. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors, c'est intéressant. Une fois qu'il comprend que c'est Jésus de Nazareth, le fils de David qui passe, il se dit, je ne vais pas rater le truc. Je ne vais pas rater le truc. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été lui? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous dites, mais c'est dingue. Voici l'occasion de ma vie. Si Jésus a vraiment guéri tous ces gens, est-ce que ça pourrait être mon moment, mon heure? Alors, il a pris ce qu'il avait, sa voix, et il a crié. Je ne vais pas le faire, d'accord? Mais il a crié, quoi? Il se mit à crier, donc il n'a pas arrêté. Il criait, et il criait, et il criait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il criait aussi fort qu'il pouvait pour capter son attention. Coûte que coûte, il a crié de plus en plus fort pour qu'il soit entendu. Pour lui, c'était presque une question de vie et de mort. Ou bien c'était crier pour pouvoir peut-être être guéri ou ne rien faire et ne jamais être guéri. Alors là, il y a un mystère. Il y a un mystère intéressant, théologique. Je vous parlais de la théologie pendant deux secondes là. La Bible nous dit que le salut vient entièrement de Dieu. Entièrement de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu nous accorde son salut gratuitement. C'est lui qui le fait. » Philippiens 1 nous dit qu'il ouvre même le cœur. Acte 16 nous dit qu'il ouvre même notre cœur. Il nous donne la foi. Tout vient de Dieu. Mais d'un autre côté, la Bible nous dit aussi que l'homme, à un moment donné, doit croire. Et ça, vous l'avez entendu dans les témoignages. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il y a Dieu qui agit sur un cœur, mais nous devons réagir. Nous devons croire à un moment donné. Et c'est un mystère. Le salut est complètement de Dieu, mais en même temps, il s'attend que nous lui demandions. Et ici, Bartimée crie à Jésus afin qu'il le guérisse. Et voilà ce que Dieu veut de nous. Il veut qu'à un moment donné, une fois qu'on a compris qui est Jésus-Christ, que nous crions à lui et que nous disions « Jésus, je te veux, toi, toi deviens mon sauveur, toi deviens mon Seigneur, toi je te prie, je te demande s'il te plaît, guéris-moi spirituellement. » Ça, c'est la foi. Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrera. Alors vous dites, mais est-ce que Dieu veut me sauver, moi? Ah, bonne question. Écoutez ce que Dieu dit. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La Bible est claire, elle veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Bartimée a crié. 4. Bartimée a persisté. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Il a persisté. Alors imaginez, vous êtes là, vous êtes dans la foule, peut-être Jésus est en train d'enseigner pendant qu'il marche, les gens les écoutent, waouh, ouais, super. Et là, tout d'un coup, il y a ce gars au coin de la rue qui commence à crier, il fait un de ses boucans. C'est frustrant, quoi, ça vous dérange. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous le voyons. Dans Marc chapitre 10, verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mes amis, écoutez bien ce que je vais dire. Ne pensez pas que de venir à Christ est une chose facile, ce n'est pas facile. Car aussitôt que tu vas crier pour qu'il intervienne dans ta vie, ton entourage va essayer de te faire taire. C'est intéressant, une autre Bible, une autre version avec des mots un petit peu plus modernes dit ceci. « Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. » Lui, cependant, criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Pourquoi est-ce que ces gens voulaient ce silence? Eh bien, le texte ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les cris de cet aveugle dérangeaient. Dérangeaient, puis voilà quoi. Et j'aimerais te dire que si tu décides de crier à Jésus, tu vas déranger les gens autour de toi. Oh, pas simplement parce que ta voix sera haute, même si tu cries dans ton cœur, et si Christ fait une œuvre dans ta vie, ça va déranger ton entourage. Tu vas être critiqué, tu vas être rabroué. Mais qui te critiquera? Très simple, Jésus l'a dit, Matthieu 10, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre... Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Ta famille. Ta famille pourrait te critiquer. Tes amis aussi pourraient te critiquer. Luc 21, 16. « Vous serez livrés même à vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. » Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens critiqueraient ou même persécuteraient un chrétien pour un changement de vie positif? Ah, parce que 1 Pierre 4,4 nous dit « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Voyez-vous, une vie transformée, une vie qui commence à refléter la vie sainte de Jésus-Christ, ou pas parfaitement, mais cette amélioration que Christ amène en nous dérange ceux qui aiment leur péché. Ça les dérange. Et ils ne veulent pas être rappelés de leur péché. Et Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors moi, je te demande, si tu viens à Christ, est-ce que tu es prêt à être critiqué? Parce que ça va arriver. Ça, c'est sûr. Mais il a continué à crier. Il a crié encore plus fort. Et regardez la résultante. Marc 10, 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Waouh ! Imaginez, voilà cet aveugle qui crie, et qui crie, et qui crie. Et tout d'un coup, quelqu'un lui dit, « Jésus t'appelle, maintenant. » Quelle est la réaction dans ce cœur? Ah, le mec, et franchement, vous rendez compte? Vous rendez compte? Le moment qu'il ne pouvait pas imaginer toute sa vie, à cet instant, arrive. Cinq. Bartimée a sauté. Il a sauté. Jésus s'arrêta, verset 49, et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Là, on voit la foi active de cet homme. Il n'attendait que ça. Il a couru vers Jésus aussi vite que les jambes lui permettaient. C'est intéressant cette petite phrase. Pourquoi vous croyez que le texte nous dit qu'il a jeté son manteau? Ah, c'est ce qu'il a dit. Il jeta son manteau. Pourquoi? Il jette son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus. Nous ne savons pas la réponse précisément, mais on pouvait la supposer. L'homme était aveugle, pauvre, mendiant. Il n'avait pas le luxe de changer de tenue très souvent, probablement jamais. Où logeait-il? Il avait que ce qu'il avait sur lui, son manteau. Et probablement ce manteau, il s'en servait pour récolter l'argent. Eh bien, à cet instant, lorsque Jésus l'appelle, son manteau, son argent ne valent rien. Il va peut-être recouvrir la vue. Tout est relatif, mes amis. Tout est relatif. Tout d'un coup, l'argent ne vaut rien. Rien ne vaut rien. Ça, c'était peut-être pas du très bon français. Jésus a dit, Luc 14, 25, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Est-ce que ça veut dire qu'on doit devenir pauvre? Non. Non, c'est pas ça. Simplement, il veut qu'il ait la première place dans ma vie. Il devient un mot sauveur, c'est ce que j'ai demandé aux baptisés, et Seigneur, Seigneur de ma vie, roi de ma vie. Et à cet instant-là, son argent, son manteau, en fait, à cet instant-là, ce manteau et cet argent sont devenus pour lui un fardeau. Parce qu'avec un manteau, plein d'argent, tu ne peux pas peut-être courir aussi vite et sauter aussi vite que si tu ne l'as pas. Et donc, il se lève d'un bond et va vers Jésus. Moi, je me rappelle, quand moi j'avais 19 ans, moi je suis parti en Inde. J'étais un peu comme Simon, j'avais ma queue de cheval. Moi, j'étais sur le chemin des drogues là-bas. Et je me rappelle, un jour dans la rue, j'ai rencontré un chrétien qui m'a, lui, parlé de Jésus-Christ. Moi, je vivais pour moi, je m'éclatais, quoi. Je m'éclatais. Et ce gars m'a arrêté. Il m'a parlé de Jésus-Christ. Il m'a dit, « John, t'as deux choix. Tu peux croire en Jésus-Christ, et il viendra, il te pardonnera ton péché, il te donnera la vie éternelle. » Jean 3,16, on l'a déjà lu quelques fois. Ou bien, tu peux rejeter Christ, et la Bible dit que tu périras, tu seras coupé pour l'éternité de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, moi je savais que c'était Jésus de Nazareth, fils de David, dont il me parlait. Je savais que cet homme, et uniquement cet homme-là, pouvait vraiment transformer mon cœur. Et là, dans la rue, j'ai dit, Jésus-Christ, si tu peux vraiment changer ma vie, fais-le maintenant. Et Christ a envahi ma vie, pardonné mon péché. Il m'a transformé. Amen. Ça, c'est la joie du Seigneur. Merci, le timing. Super. Est-ce que tu es prêt à sauter? Il t'appelle. Est-ce que tu es prêt à tout laisser, sauter et aller vers Jésus? 6, je termine. Bartimée a demandé, verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est intéressant, Jésus lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il voulait comprendre vraiment ce qu'il voulait de lui. « Dis au Seigneur ce dont tu as besoin. » Dis-lui, « Qu'est-ce que tu veux ?» Seigneur, je suis dans la galère, je tourne en rond, je suis éloigné de toi, je suis dans l'obscurité. Je veux être guéri par toi, Seigneur, je veux y voir clair, je veux comprendre la vérité. Je veux comprendre ton sacrifice pour moi à la croix, à Golgotha, je veux comprendre ta résurrection. Prends ma vie, prends mon péché, prends ma rébellion, prends tout. Dans Marc 10, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Intéressant. Juste après, il dit, « Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussitôt, c'est à l'instant même. Il recouvra la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'avait pas de yeux qui marchaient. Et instantanément, celui qui n'avait probablement jamais vu de sa vie, paf, il voit tout. Il reçoit des nouveaux yeux instantanément par Jésus-Christ qui le guérit. Et c'est intéressant, cette phrase « Va, ta foi t'a sauvé » parle bien sûr d'un côté physiquement, il a été sauvé de la cécité permanente, mais il y a une note spirituelle, car il y a plus qu'une guérison physique ici, il y a aussi une relation, et ça on le voit au verset 53, car il est dit aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et dans Luc 48 et dans plusieurs textes, on utilise cette phrase « ta foi t'a sauvé » pour parler tantôt de guérison physique, tantôt salut spirituel. Bref, Bartimée demande à être guéri. Et il y a un moment donné, ça on l'a entendu dans les témoignages, où un moment, ce moment arrive, où on dit « ok, j'ai compris, j'ai compris ». Maintenant, je demande à Christ de me guérir et de me guérir spirituellement. Maintenant, Seigneur, à cet instant, moi c'était le 4 novembre 1976, je me rappelle comme si c'était hier. Pour certains, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas un moment précis, je comprends, parce qu'ils ont grandi dans la foi. Mais pour ceux qui sont plus grands, pour ceux qui ont une vie, et à un moment donné, ils rencontrent le Seigneur, il y a un moment. Même quand ils sont petits, ils sont au moment, mais ils n'arrivent pas à se rappeler du moment. Il y a un moment où on demande tout simplement à Jésus-Christ de devenir notre sauveur. Et sept, dernier point, il a demandé, regardez ce qui se passe, Bartimée a suivi. « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue. Il suivit Jésus dans le chemin. Et sache que si tu donnes ton cœur à Christ, si tu crois en lui pour être sauvé, tu vas devenir son disciple. Ça veut dire qu'il va transformer ton cœur et ton amour pour lui va grandir. C'est inexplicable. Tu vas commencer à aimer la Bible. Tu vas commencer à aimer l'Église. Peut-être que tu n'as jamais mis les pieds dans une église de ta vie. Tu vas commencer à aimer les chrétiens. Tu vas commencer à aimer la parole de Dieu. Et tu vas commencer à aimer Jésus de tout ton cœur et de plus en plus et tu vas vouloir le suivre. Tu vas parler plus de Jésus. Ta vie va se conformer de plus en plus à sa vie. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il a fait. Bartimée a suivi Jésus. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors voilà les éléments de la foi. Qu'est-ce qu'on voit? Les ingrédients de la foi. Bartimée a entendu, il a reconnu, il a crié. Il a persisté, il a sauté, il a demandé et il a suivi. Et là, je pense qu'avec cette histoire de Bartimée, vous comprenez ce qui s'est passé aux quatre baptisés aujourd'hui. Dieu a pris leur vie. Et maintenant, ils vont suivre. Et toi, où est-ce que tu en es? Aucune pression. C'est Jésus, en fait, qui t'appelle. Est-ce que tu serais prêt même aujourd'hui à dire « Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je veux ce que ces quatre baptisés ont. » On va incliner nos têtes et on va prier. Et si c'est quelque chose, si ton cœur a été touché, peut-être pas, peut-être qu'il n'a pas été touché, mais s'il a été touché, eh bien maintenant, là où tu es, tu peux dire « Jésus. Je veux être comme cet aveugle. » Oui, j'étais aveugle, mais je veux voir. Oh, Seigneur, tu peux me guérir physiquement. Peut-être que tu as un problème physique. On peut prier pour cela, mais plus important encore, c'est ton aveuglement spirituel. Seigneur, je te demande maintenant de me donner la vue et comprendre le salut en Christ. Rentre dans mon cœur. Pardonne mon péché et donne-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.